capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La semaine dernière, la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, a été secouée par des inondations causées par une forte pluie diluvienne. À ce jour, la situation humanitaire des sinistrés devient de plus en plus préoccupante. Cette affaire relance les débats sur la fiabilité des services de météorologie ou géophysique capables d'informer les autorités sur des probables perturbations climatiques, séismes et tremblements de terre et autres. Est-il possible d'épargner des populations des dégâts que causent ces genres de catastrophes à travers le pays? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ce magazine est mis en nom de par Polydor Basunga. Tati Mapoukou est à la réalisation et pour moi, Pierrot et la Meiji, c'est un réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Radio Kapi lance, dès ce lundi 27 avril, un programme d'éducation à distance. En partenariat avec les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et l'UNICEF. Suivez au Kapi École du lundi au vendredi à 9h05 et 14h05, heure de Kinshasa. Au Kapi École, pour mieux s'occuper des élèves des écoles de la RDC en cette période de confinement.
Fidèles auditeurs, bienvenue à tous. Les inondations, on en parle encore. Près de 40 personnes sont mortes à Uvira. Mais rappelons aussi que plusieurs d'autres, dans les Tanganyika, par exemple aussi, les inondations et la crue des eaux du fleuve Congo ont pu engloutir, il y a une semaine, près de 2500 maisons. Des localités telles que Kabalo, Kongolo, Manono se sont retrouvées dans l'eau après de fortes pluies et la crue des eaux du fleuve Congo à Uvira. Ce sont presque trois rivières qui ont pu quitter leur lit pour se retrouver dans la ville. Alors, est-ce que la RDC peut arriver un jour à prévenir ces genres de catastrophes par l'organisation des services de météorologie, mais autres techniques qui peuvent être mises en place pour éviter et protéger la population contre ces genres d'incidents et des catastrophes? C'est au centre de notre échange. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets, tels qu'on voit des commentaires sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais aussi en direct. Ismaël, bonjour et bienvenue dans Paroles aux auditeurs. Vous êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute.
Ok, moi je vois que le gouvernement peut arriver un jour si on aurait le deux systèmes dont l'urbanisme et l'habitat et le cadastre pourraient s'assumer de sa fonction correctement comme il se doit. Après que la plupart des personnes dont la responsabilité aujourd'hui est attribuée au l'État, n'est pas l'État en soi, plutôt que des personnes qui veulent vraiment habiter à un endroit où l'État lui-même avait déjà prévenu à ce genre de personnes qui ne devaient pas s'y habiter. Je vous donne par exemple la situation géographique de la ville de Lubumbashi au titre d'exemple. Nous avons la rivière Lubumbashi qui est entourée de maisons et de parcelles où les gens filent juste au niveau même du lit de petites rivières. Par l'inondation, il est difficile vraiment, et ça sera maintenant les appels du gouvernement. Mais le cadastre et l'urbanisme et l'habitat, c'est que nous connaissons maintenant des villes ou les bidonvilles, où les gens eux-mêmes ont loti de leur propre manière, où les gens de cadastre ont attribué des parcelles et les gens ont même des titres. Il est difficile aujourd'hui de les loger parce qu'ils ont des titres de lotissement. Il n'y a pas moyen de lui épargner. Mais en plus, la conscience et la mentalité congolaise aussi étaient au beau fixe, où les gens prévoyaient voir seulement qu'un jour, nous pouvons concourir un danger et nous pouvons voir quand même un peu le danger. Nous sommes sur la gare de Bukama. La SNCC a élevé son niveau de gare et de ses installations. où il y a des fortes inondations, passe au-dessus de là. Mais les gens qui ont en bas de, cette, de ce remblement connaissent un peu de, souvent de dégâts. Pourquoi? Parce que quand de l'eau arrive, quand il y a l'inondation, parce que ce cycle revient après ça 10 ans. Et les gens ne sont pas un peu éveillés. Il a fallu faire que le cadastre prenne un peu ses responsabilités. Les zones non habitables, le gouvernement a déjà fixé et a dit que cet endroit, les gens ne peuvent jamais habiter. Mais quand les gens y habitent, que le cadastre donne même le titre de ce parcelle-là. C'est ça le problème. Si aujourd'hui on fait appel au gouvernement, oui, le gouvernement a accepté les responsabilités dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les gens ont leur titre de leur parcelle. Mais plutôt qu'on devait prévenir, et cet endroit-là, l'État devait soit faire, parce que ce sont des zones marécageuses où les gens ne peuvent jamais habiter. S'ils habitent et qu'il y a une inondation vraiment, il va falloir faire une mesure où le Parlement convoque une loi pour vite qu'on ne puisse pas souvent faire appel à l'État ou non, l'État fait ça. Non.
Alors, pour vous, Ismaël, la première prévention, c'est-à-dire que la première protection de la population, c'est d'abord la question de l'urbanisation. Vous estimez que il faut dans urbaniser, il faut des sites qui peuvent être des sites à problème. Cela veut dire où un danger peut arriver demain. On ne devrait pas laisser la population habiter ni construire dans ces sites-là. Vous avez donné l'exemple des Lubumbashi, vous avez donné l'exemple de Bukama. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas construire des maisons d'habitation aujourd'hui parce qu'il y a risque qu'en cas de forte pluie, s'il y a des crues comme on voit avec le fleuve Congo, et ça puisse détruire les habitations. Merci beaucoup Ismaël. Dieu merci. Vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi. Bonjour à tout le monde.
On vous écoute. Dieu merci.
Ah oui, merci. Permettez que nous puissions d'abord présenter nos sincères compassions à toutes ces familles en détresse. Nous disons que l'état des bâtiments même qu'abrite le service de météorologie est un indicateur qui montre que le service n'est pas fiable, monsieur le journaliste. Nous pensons qu'il est possible de nous épargner de tous ces dégâts, des inondations. L'inondation est un événement de santé publique et sous surveillance en RDC. Nos dirigeants préfèrent d'abord la politique d'offensive au lieu et place de prévenir ou soit d'anticiper les événements et les catastrophes naturelles. Regardez d'abord le traitement qu'on réserve aux services de météo, assainissement et urbanisme, pour ne citer que cela. C'est grave, alors que ce sont des services compétents et censés nous épargner à tous ces dégâts, monsieur le journaliste. Donc, il y a un problème au niveau de nos autorités qui n'arrivent pas à bien gérer la chose publique ou à prévenir les événements. C'est un peu ça le problème.
Merci beaucoup, Dieu merci. D'ailleurs, vous l'avez dit, quand on regarde aujourd'hui les services de météorologie à travers le pays, c'est les bâtiments, vous l'avez dit, les bâtiments lui-même, c'est pas seulement à Kisangani, c'est à Kananga, c'est à Kinshasa, c'est presque partout. Et d'ailleurs, vous rappellerez que, en parole aux auditeurs, nous avions parlé des spoliations de terrains appartenant aux services de météorologie. C'est presque dans beaucoup de provinces, ces services n'a plus des bâtiments, c'est dans un état de délabrement très avancé. Des fois, des sites, même des terrains qui appartenaient aux services de météorologie ont été spoliés presque à travers le pays. Et ça sera difficile que les services qui étaient à l'abandon puissent se rendre à l'État un travail mérité pour prévenir ces cas de catastrophes naturelles. Merci beaucoup. Dieu merci. Christian, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour aux auditeurs.
On vous écoute.
Merci Pierrot. Je dirais à toute la population d'Ouvira que nous sommes du cœur avec eux. Notre pays est triplement meurtri. D'un côté, il y a cette situation d'inondation. De l'autre côté, coronavirus. Et enfin, il y a aussi ces problèmes des attaques, des Kuluna et tout consort. Pierrot, je crois que la solution est là et la solution est possible pour que nous puissions arriver à mettre fin ou à sauvegarder des vies humaines par rapport à ce genre de catastrophes. À condition que nous puissions d'abord commencer à vivifier les structures qui existent, notamment les services d'anti-incendie. Vous êtes sans savoir qu'il n'y a pas longtemps, l'immeuble qui se trouve sur 24, l'Empire, a été surpris par l'incendie, mais pour maîtriser le feu, ça a été tout un problème. Alors imaginez-vous si ici à Kinshasa, les problèmes n'a pas trouvé solution aussi facilement. Et alors là-bas, en Uvira ou encore au fin fond de la RDC, les problèmes seraient encore graves. Et donc, moi, je crois que les autorités doivent aujourd'hui comprendre que ce genre d'inondation est une interpellation pour eux de commencer à vivifier, à redorer les blasons de toutes ces structures qui existent afin que nous soyons quand même capables de bien sécuriser nos populations. Aujourd'hui, les services météorologiques peuvent faire leur travail, mais s'il n'y a pas d'engin, s'il n'y a pas de matériel pour pouvoir évacuer la population après l'annonce d'un pluie qui va, après l'annonce d'un pluie, qu'est-ce que ces services-là feront? Ils ne feront absolument rien. Ils vont recevoir l'information, mais ils seront laissés abandonner à leur triste sort. Il faudrait vraiment commencer dès aujourd'hui à repenser notre fonctionnement afin que les services des catastrophes naturelles soient vraiment un service de qualité, afin que la population ne soit plus maîtrisée, exposée face à ces genres de dangers, Pierre Lamiche.
Merci beaucoup, Christian. Vous l'avez dit, il faut d'abord que l'État puisse vérifier le service. Vous avez évoqué le cas de la gestion des incendies. On le sait, d'ailleurs, nous avions eu beaucoup de débats ici autour de la question des incendies avec le contrat signé par le gouvernement congolais avec un compatriote de la société, je crois bien c'est Claude Malouma, avec tous les matériels fournis pour la lutte contre les incendies. Mais malheureusement, l'État n'a jamais ni payé la facture, ni récupéré le matériel. On en avait parlé dans beaucoup d'émissions. Et vous estimez que quand bien même le service de météorologie pouvait être équipé, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de terrain, de bâtiments, de matériel nécessaire, ils peuvent lancer les alertes, mais il reste aussi à savoir si l'État a la capacité de pouvoir évacuer, par exemple, les populations. On le voit dans beaucoup de pays, quand il y a une tempête qui s'approche, où on dit bien, autant les populations ont été évacuées avant même que les pluies puissent commencer. Mais est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, non seulement de donner l'information sur les effets de la météorologie, mais est-ce qu'on peut aussi être capable de pouvoir déplacer, évacuer ces populations pour les mettre à l'abri? C'est une autre question qui se pose. Merci beaucoup, Christian. Alain, vous êtes sur place à Uvira. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour.
Quelle est la situation à Uvira aujourd'hui après les dégâts causés par les inondations?
Oui, après les dégâts, nous sommes ici, les gens sont à l'abri d'abord dans des salles de classe et les autres sont dans des familles d'accueil. Et les autres sont en train de passer la nuit à la belle étoile. Mais pour le moment, les autorités sont sur place. Il y a déjà des machines qui sont là, qui sont en train de canaliser d'abord la rivière.
Mmh. Ok. Mais est-ce que avant même qu'on arrive à cette situation des inondations à Uvira, Alain, comment les gens ont-ils construit Uvira, comment les gens ont construit par rapport à ces rivières, que ce soit Kavimvira, que ce soit Mulongwe, comment les gens ont-ils construit leurs habitations?
Pour la construction ici chez nous, c'est difficile de dire qu'ils ont mal construit, mais sur le débordement, pour dire que les gens ont construit selon le niveau de vie. Parce que pour construire, ça demande aussi les moyens. Mm-hmm. Et c'est pourquoi ils ont construit au bord de la rivière. Mais comme d'habitude, la rivière a débordé. Selon les sentiments des autres, ils ne pensent pas même que ça peut venir. Parce qu'il y a aussi tant de dégâts ici, qui n'est pas celle de Moulon ou de Kanevira, et de Nyaoumang aussi. Déjà construit, mais il n'y a pas des inondations, des choses qui font beaucoup de dégâts, mais pour le moment, c'est difficile de dire que la population a mal construit, non, mais ce sont des choses qui sont seulement arrivées.
Mmh. Ça dit qu'Alain, les gens ont construit, personne n'avait pensé vraiment qu'on pouvait avoir un tel déferlement des eaux dans les quartiers, c'est ça. Mais bon, mais après, maintenant, la situation humanitaire par rapport aux gens, vous avez dit qu'il y a déjà des engins qui sont en train de travailler, mais est-ce qu'il y a-t-il des sensibilisations pour que les gens se disent prochainement, soit de ne pas rentrer dans ces quartiers où il y a eu des inondations, ou bien d'aller construire ailleurs?
Pour le moment, c'est difficile parce que d'abord, les terrains où la population vivait, c'est tellement difficile de vivre pour le moment. Et on entend d'abord la réaction des autorités. S'ils vont autoriser encore de reconstruire, ou on va lui donner quelque part à dire, n'est-ce pas?
Mmh. Merci beaucoup, Alain. Vous êtes à Ouvira, vous l'avez dit. C'est difficile pour le moment. Beaucoup de gens ont construit, mais ils ne s'attendaient pas à une telle catastrophe. Oui. Et il reste à savoir si les autorités vont trouver une solution pour relocaliser toutes ces populations qui se sont retrouvées dans les quartiers inondés par ces eaux. Merci beaucoup, Alain, de ces témoignages sur place à Ouvira. Josué, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup. Je suis Josué Assani, coordonnateur du mouvement citoyen Rien sans le peuple à Bukavu.
Et d'ailleurs, je me rappelle bien l'année passée, en début d'année d'ailleurs, Josué, nous avions eu aussi les débats quand il y a eu ces maisons qui se sont effondrées à Bukavu, les maisons qui sont construites en pente, tout ça, on en a parlé. Mais alors, comment on peut arriver à protéger la population contre ce genre de choses à la prochaine? Parce que c'est pas la première fois quand même que les gens meurent des inondations ou bien des glissements des terrains.
Merci beaucoup. La thématique est trop intéressante et elle mérite les analyses de diverses manières. Voilà, d'entrée de jeu, je voudrais dire que dans le premier volet de mon analyse, je voudrais dire que ce qui est à la base, ou bien ce qui serait à la base de ce genre d'inondations, c'est le manque d'une mise en place d'une bonne politique de gestion des immondices. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, en tout cas, il n'y a pas cette bonne politique-là de gérer les immondices et les déchets. Allez-y comprendre, M. Pierrot et Lamedji, les lacs ou bien les lacs sont inondés bien avant que les pluies n'arrivent. C'est-à-dire, tous les déchets ils sont là, et tous les sachets, donc les immondices en tout cas font rage. Au point que les lacs n'ont pas en tout cas vraiment sa profondeur initiale. C'est-à-dire, si l'État pourrait arriver à concevoir une politique de transformer même ces déchets-là, donc les déchets-là en engrais chimiques ou bien les matières en plastique là pour les transformer de nouveau, ça pourrait faire en sorte que les lacs, en tout cas, puissent en tout cas respirer, permettez-moi le terme, parce que je ne suis pas spécialiste. Donc, la première solution, que l'État mette en place une bonne politique de gestion des immondices. La deuxième chose à laquelle je voudrais insister, c'est en rapport avec les services de l'urbanisme, le co-débatteur l'a dit, mais je voudrais particulariser quelque chose là-dessus. Au sein des services de l'urbanisme, il y a les inspecteurs qui sont chargés, permettez-moi le terme, d'inspecter les constructions avant, pendant et après la construction. Donc quand quelqu'un veut construire une maison, il va demander l'autorisation de construire ou bien de bâtir, et après, le service de l'urbanisation va descendre sur le terrain pour regarder si ce milieu-là est propre à la construction. Si le milieu est propre à la construction, on lui donne l'autorisation de construire. Et pendant qu'il est en train de construire, le service va repasser afin de voir si ça respecte toutes les normes urbanistiques. Et après, il va encore repasser pour conclure. Alors, si la maison est construite, bon, en respectant les normes, on va donner à l'individu les certificats de conformité. Mais Pierrot et Lamedji, nous regrettons le service de l'urbanisme, ne fait qu'un théâtre, fais-moi passer le terme. S'il y a des maisons qui ont été mal construites, et le service de l'urbanisme passe, il y a des croix qui sont mises dans des parcelles, mais après, à un moment donné, la suite est en tout cas... Je sais comment m'expliquer. Mais sinon, je voudrais que les services de l'urbanisme puissent vraiment prendre en considération ces prérogatives.
Et là, d'ailleurs, Josué, vous l'avez dit, c'est merci beaucoup. C'est une question transversale, en commençant par la gestion de l'environnement. Parce qu'on a vu, par exemple, ici à Kinshasa, comment est-ce que des rivières sont déjà, on peut dire, presque bouchées totalement avec de déchets plastiques. Et quand il pleut, c'est compliqué parce que la rivière quitte son lit facilement. Et vous l'avez dit, c'est la première chose. On ne sait pas comment évacuer les immondices qui provoquent aujourd'hui que les caniveaux soient bouchés et que les eaux soient refoulées sur les avenues. C'est un problème. Le deuxième problème, c'est la question de l'urbanisation. Comme le disait tout à l'heure notre ami Ismaël de Lubumbashi, il y a des inspecteurs. Ça dit que le ministère de l'urbanisme et habitat, c'est lui qui doit déterminer où est-ce qu'on peut construire ou on ne peut pas construire. Et quand bien même les maisons sont construites, est-ce qu'on les inspecte? Est-ce qu'on sait que les sites, est-ce que c'est un site approprié? Cela veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait en amont par le gouvernement avec les services spécialisés et tout ce qui peut permettre à ce que la population soit protégée contre ces genres d'événements. Merci beaucoup, Josué. À Bukavu. Baudouin, vous êtes à Kasumbalesa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour Monsieur Pierrot. Hein. Je vous appelle à partir de la ville de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga.
On vous écoute. Oui.
Merci vraiment pour la thématique du jour. Hein. Les problèmes là d'inondation, moi je trouve que c'est une responsabilité partagée. Et au niveau de l'État, notre État congolais par les biais du service de l'urbanisme et nous-mêmes occupants de ces genres de parcelles. De l'autre côté, nous parlons des inondations. Tandis qu'ici, chez nous, pratiquement, ici, nous, à Somalesa, nous parlons des érosions. Donc, aussi longtemps que le service de l'urbanisme ne prendra pas ses responsabilités pour faire convenablement son travail, je pense que ce problème ici ne prendra pas fin bientôt là. Donc, je voudrais aussi ajouter une chose par rapport au service météorologique. Il faut que ce service puisse être vraiment en action dans notre pays. C'est comme cette année ici. La pluie abondamment ici chez nous. Je ne sais pas si c'était le cas même là où vous parlez maintenant, je crois, à l'Est. Mmh. Ici chez nous, on ne sait même pas mesurer s'il y a eu combien de mètres cubes d'eau. Et vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas de rivières à côté, ni moins de fleuves, mais vous allez voir, il y a des maisons qui se sont inondées, des grandes maisons qui se sont écroulées. Mais là, que dire des régions où nous sommes en train de déplorer dans votre émission ici? Donc, je vois que l'État va vraiment prendre ses responsabilités à main. Il faut que ces services-là puissent travailler vraiment de bonne foi. Souvent, on octroie à n'importe qui les certificats, comme venait de le dire notre intervenant passé là, et les autorisations de bâtir, des constructions et consorts. Et n'importe où et n'importe comment. Donc l'État doit vraiment revenir sur ce
point. Merci. Merci beaucoup, Baudouin. Vous avez abordé là deux volets. Ça dit qu'il y a d'abord la question de l'urbanisation, on en a évoqué. Mais quand vous êtes revenu sur la question des services de météorologie, est-ce qu'il est ces services est-il organisé? Est-ce qu'il lance les alertes? Mais vous avez posé la question. L'année passée, d'ailleurs, on a connu beaucoup de pluies à Kinshasa. Vous connaissez même la situation du sud au Bangui, où même le chef de l'État avait fait le déplacement. Et actuellement, on parle du Tanganyika, on parle de Olomami, et on parle aussi d'Uvira. Mais est-ce que le service de météorologie a-t-il aujourd'hui les capacités de pouvoir lancer des alertes, de pouvoir dire que faites attention, il y aura une pluviométrie très très abondante? Vous qui habitez par exemple dans telle province, faites attention, avec telle rivière, elle peut se déplacer de son lit. Est-ce qu'il y a ces services-là qui s'est fait en amont pour que le pouvoir public prenne des dispositions? Voilà un peu ce qu'il faudrait organiser aujourd'hui pour pouvoir prévenir ces genres de catastrophes. Merci beaucoup, Baudouin. Maître Aimé Mbokolo, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la France de la Paix.
On vous écoute.
Je vérifie, c'est Maître Edmond Bokolo, je vous appelle de Banal.
Ah, Edmond, merci beaucoup. Oui, on vous écoute, oui.
Merci beaucoup pour la thématique du jour. Nous sommes de faire avec nos frères et sœurs d'ouvrir qui sont frappés par les inondations. Mais à mon humble avis, j'espère bien que les problèmes d'inondation qui se posent bien sûr à travers toute l'étendue de la République, cette situation est imputée notamment aux autorités principalement et exceptionnellement à la population. Et les solutions que nous pouvons prendre ou prévenir contre ce genre de catastrophe, d'abord, dans un premier temps, les autorités qui gèrent les services d'urbanisme. Je ne sais pas s'il y a un ministère d'urbanisme, parce qu'on vit partout dans la capitale, dans des provinces, dans les territoires, nous ne voyons aucune action du service de l'urbanisme. Parce que même au niveau de grandes villes, nous n'avons même pas de bons endroits où il y a une bonne canalisation d'eau. Parce que les problèmes s'est posé même à Kinshasa. Moi-même, je suis passé à Zongo en 2018. Je viens même au mois de février, j'étais à Gemena, Lissala. Mais si vous arrivez là-bas, vous trouvez que la la ville n'a même pas de canalisation et pour les inondations, c'est une question qui doit être très fréquente. Et notre point qu'on doit impliquer aux autorités, ce sont les services de cadastre et les services de titre foncier. Ces services vendent les endroits qui ne peuvent pas être habités. Parce que j'ai vu à Zongo, j'ai vu même à Akoula, vers Sidoubang, où des gens construisent en dessous des eaux. Et allez imaginer, en cas d'intempérie, en cas de flambée d'eau, en tout cas, il y a des inondations, il y a de pertes en vie humaine. Et s'agissant de deuxième point, c'est à nous, la population. C'est à la population aussi d'être vigilant. Comment une population, quelqu'un citoyen, peut aller ériger un édifice, une maison, là où il y a par exemple la canalisation, il y a un lit de la rivière, par exemple. Donc, pour prévenir, je crois que c'est même pas un problème des services météorologiques, parce que les services météorologiques, c'est pour prévenir. Mais c'est aux autorités, à travers le ministre de l'urbanisme, de pouvoir descendre sur terrain et essayer un peu d'harmoniser la canalisation ainsi que les services de titre foncier de pouvoir vendre les concessions dans des endroits où la population peut quand même habiter sans pour autant être frappée par des telles intempéries.
Merci beaucoup Edmond Mbokolo. Vous êtes en Bandaka, vous l'avez dit, il y a la question de l'urbanisation, la question des canalisations dans les grandes villes, on en parle, même aussi dans les territoires. Mais vous êtes revenu sur la responsabilité du service des cadastres hein, avec le ministère des Affaires foncières, parce que ce sont eux qui procèdent au lotissement. Mais pourquoi peuvent-ils accorder des titres de propriétaires, bien sûr, auprès de gens qui ont construit ou qui occupent des terrains à des endroits problématiques? Mais pourquoi eux-mêmes peuvent lotir à des endroits où on sait déjà qu'ici, s'il suffit seulement d'une pluie, la rivière va se déplacer de son lit et octroyer des parcelles aux gens. La plupart n'ont pas de moyens pour construire de maisons qui peuvent résister à ces inondations ou bien à ces intempéries. Voilà les problèmes qui se posent. C'est un problème d'abord de pouvoir public, mais vous avez aussi interpellé la population parce qu'on voit aussi des gens construire à côté des canalisations. Les autres même construisent des maisons sur des égouts. Ça dit qu'il y a aussi nos responsabilités d'un côté de la population et de la part des services publics. Et vous souhaitez que la population puisse être vigilante. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Radio Capilance, dès ce lundi 27 avril, un programme d'éducation à distance. En partenariat avec les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et l'UNICEF. Suivez Okapi École du lundi au vendredi à 9h05 et 14h05, heure de Kinshasa. Okapi École, pour mieux s'occuper des élèves des écoles de la RDC en cette période de confinement.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Quelques provinces de la RDC ont connu des situations de catastrophes, bien sûr, après des pluies. Ouvira, qui a perdu près de 40 personnes après des inondations, les déplacements de rivières qui ont quitté leur lit. Plus de 2500 maisons ont été englouties dans le Tanganyika, dans le Olomami, les eaux du fleuve Congo qui se sont aussi déplacées, causant des dégâts très, très énormes. Comment arriver à prévenir ces genres de choses? Vous êtes nombreux à commenter les sujets. Les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Paroles aux Auditeurs.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, il y a un grand problème que nous devons résoudre. Vous savez, j'ai l'impression qu'en RDC, nous n'avons pas une politique nationale d'urbanisation. Et les services existent, mais ils n'appliquent pas les normes scientifiques de l'urbanisation. Et ça, c'est un sérieux problème. C'est pour dire que l'État ne s'impose pas là où il doit s'imposer. Et ça, ce n'est pas normal. Nous parlons aujourd'hui d'Uvira. Mais il y a quelques jours, c'était Zongo. Il y a plusieurs autres villes. Et vous êtes à Kinshasa, Bandal, Makelele, vous savez ce qui se passe très souvent. Alors, ce sont des choses qui ne nous donnent pas de leçons. Et moi, je me dis que la première responsabilité revient à l'État. Parce que lorsque un individu se permet d'aller construire là où on ne peut pas construire, l'État le laisse faire et il va rester là-bas pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'au jour où il y aura catastrophe. On dit non, il avait mal choisi son terrain. Ce n'est pas normal. La population dans beaucoup de pays, c'est comme des moutons. Il faut que l'État les redresse. Alors, mais il y a aussi évidemment la responsabilité de la population parce que une personne normale ne peut pas aller se placer au bord d'une rivière ou vraiment en dessous de la rivière. Mais ça, c'est un autre problème, c'est un problème des moyens, c'est pour ça que les gens vont n'importe où. Mais je vous dis que nous ne faisons rien. Et on attend qu'il y ait catastrophe. À Kikwit, le 10 avril, c'était un vendredi, il y a une pluie très abondante qui a duré 2 heures. Mais Pierrot, je vous dis que nous avons des personnes qui vivent ici en ville basse, donc à pleine ville, qui ont perdu leur maison et qui ont perdu tous leurs biens. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, et c'est sur l'avenue du commerce, pour ceux qui sont en ville, avenue du commerce. Ça fait plus de 5 ans, plus de 8 ans que ces gens-là vivent des catastrophes à chaque fois qu'il y a pluie. Mais l'État n'a pris aucune mesure pour les protéger, ou pour ceci, ou pour... parce que ces personnes n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de leur maison. Alors, on n'a pas fait quoi ? Ça signifie qu'on n'a pas amélioré, on n'a pas adapté les canalisations. Donc, il n'y a pas une politique d'entretien des canalisations. Les canalisations que nous ont laissées, les oncles belges, ce sont ces canalisations que nous utilisons aujourd'hui. Avec une largeur de 2 cm, une profondeur de peut-être 20 cm jusqu'aujourd'hui.
Alors Olivier, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que les normes scientifiques existent. On n'a pas une politique nationale. Est-ce que c'est un problème de volonté? C'est un problème de compétences? À quel niveau exactement le problème?
C'est-à-dire que, vous savez, les compétences, on les acquiert à l'école. Mais c'est justement la volonté, parce que j'ai l'impression que les gens courent plus derrière l'argent que derrière autre chose. Mm-hmm. Alors, il y a Victor Hugo, Saint-Exupéry qui disait « Quiconque lutte dans l'unique espoir de bien matériel ne récolte rien qui vaille. » Et c'est ça notre grand problème. Les gens attrapent les diplômes, mais ils courent tous derrière l'argent, derrière les belles voitures, et le travail ne se fait pas. C'est ça le grand problème. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est un problème de volonté. Et aussi, il y a aussi, évidemment, pour certains, un problème d'ignorance. Alors, je vous dis que ces problèmes d'inondation, ce n'est pas seulement à Uvira. Il y a dans toutes les villes, les gens sont inondés, tout simplement parce que la politique d'urbanisation n'existe pas ou n'est pas respectée. Et les autorités au niveau local, au niveau national, n'ont pas le souci de la population. Ça, je ne me gêne pas pour le dire. Je crois que ça, c'est le premier grand problème. Il y a un politicien anglais, il s'appelait Disraeli, qui disait, pour un homme d'État, la première chose, c'est le souci de la population. Mmh. Et donc, lorsque un citoyen commet des gaffes, l'État est là pour dire, monsieur, attention, ça c'est une gaffe, si vous continuez, je vais vous sanctionner. Et où, au besoin, s'il y a récidive, on vient carrément, on détruit les maisons, on voit ça dans plusieurs pays, on détruit les maisons qui sont mal construites. Ici, nous avons aujourd'hui à Kikwit des maisons qui sont construites pratiquement sur les grandes canalisations qui mènent sur le pont. Pierrot, je vous dis que si vous venez à Kikwit, nous avons deux grands ponts, le pont Kwilu, le pont Lukemi, mm-hmm. qui sont en danger parce que des personnes se permettent d'aller construire juste à l'entrée du pont et les eaux qui doivent être évacuées vers les rivières ne savent plus descendre vers la rivière. Et on a inondation chaque jour à l'entrée du pont. Nous avons même des camions qui s'embourbent à l'entrée du pont et même sur le pont. Vous voyez, c'est des choses inimaginables.
Et merci beaucoup, Olivier. Vous avez dit, hein, c'est important. Il y a même un auditeur, un internaute qui a sur la page Facebook qui a écrit que la plupart de ces services techniques qui doivent en principe aider l'État, aider la population, ils sont réduits seulement à délivrer des papiers, à vendre les papiers pour avoir de l'argent et puis c'est fini quoi. Ça dit qu'on peut donner l'autorisation de bâtir, on peut donner le certificat d'enregistrement, on peut donner n'importe quoi et les vendre d'ailleurs sans pour autant vérifier et respecter les normes. Merci beaucoup, Olivier. David, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, merci, Thierry, pour m'avoir associé à cette thématique. Mm-hmm. En fait, de prime abord, je voudrais vraiment compatir avec les familles qui ont perdu le leur. Je crois qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ont évoqué le fait que c'est... Et cette catastrophe ne touche pas seulement Uvira, mais c'est presque toute le sud de la RDC. À Bounia, c'est aussi pareil, Pierrot. l'intervenant qui a pris la parole avant moi, il a presque ramassé ce que j'allais dire, mais toutefois je voulais placer un mot par rapport à un service qui est très important qu'on est en train de négliger. C'est le service de l'aménagement du territoire. Ce service, en fait, existe seulement des noms. C'est un grand service, parce que dans ce domaine, il y a beaucoup de services, bien sûr, mais les gens reconnaissent seulement le service des cadastres, on oublie la conservation, on connaît seulement et peut-être l'urbanisme, mais il y a le service de l'aménagement du territoire qui existe, dit non, Pierrot. Et si ce service travaillait réellement, en tout cas, on aurait évité beaucoup de dégâts qui devraient arriver à notre population. On se contacte aujourd'hui sur le coronavirus qui vient temporairement, mais plutôt que des problèmes qui nous touchent tous les jours. Alors, à mon sens, je pense que vraiment il fallait que ce service travaille réellement et qu'il nous fasse sortir le plan national d'aménagement du territoire, des plans provinciaux d'aménagement des territoires et même pourquoi pas des plans locaux d'aménagement. Si vraiment il y avait des plans comme ça, en tout cas, on devrait éviter des catastrophes pareilles. En plus de tous ces services-là que les intervenants ont dit évoquer, Pierrot.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on se rappellera que lors de l'ancien, les derniers gouvernements dirigés par Bruno Tshibala, on avait créé un ministère d'aménagement du territoire qui était confié à Dr. Félix Kabangé Nombi. On avait tout un ministère de l'aménagement du territoire. Il reste à savoir exactement ce que le ministère a pu faire. Et vous l'avez dit, c'est un service très important. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on attend le plan national d'aménagement du territoire? Et vous l'avez dit, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ça, c'est qui devait permettre de savoir comment gérer ces genres de catastrophes dans l'avenir, si jamais ça pouvait survenir. Merci beaucoup, David. Jonas, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, M. Piro. Bonjour à tous les auteurs de Radio Kabi.
On vous écoute.
Oui, M. Piro, permettez, compassion oblige, je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes qui sont frappés par cette calamité à Uvira. Et pour revenir au sujet, j'ai toujours personnellement considéré la radio Capi comme étant un député à côté du peuple, un député qui écoute les doléances du peuple pour les ramener à la hiérarchie. Mais je suis en train de sentir personnellement que tout le travail titanesque que vous abattez, je ne sais pas ce que ça apporte dans les oreilles des autorités qui nous écoutent en ce moment. Parce qu'on
oui, mais à ce niveau-là, Jonas, si vous pouvez vous rappeler la semaine passée, est-ce que vous avez suivi les députés provinciaux élus de, je crois bien, c'est de Olomami, hein, Paul Senga, je crois bien, c'est lui. Il a remercié Radio Capi parce que c'est après que Radio Capi a évoqué la question des inondations qui ont touché Manono, Kabalo, Bukama. Et il a même dit sur les antennes de Radio Capi qu'après avoir lancé le message, les autorités ont compris et ils ont réagi rapidement d'ailleurs pour pouvoir intervenir. Ce qui veut dire que quelque part, le message arrive parce qu'il y a eu quand même ces témoignages d'un député provincial qu'après avoir lancé le message sur Radio Capi, il y a eu l'intervention rapide des autorités pour faire face à la question des inondations dans ces localités précitées. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, il y a le message qui arrive et il y a la réaction.
Bon, mais je pensais que nous saluons bien ce témoignage-là, mais ça n'arrive pas autant que le peuple l'espère. Et le Congo a toujours souffert des mêmes maux. Si à Uvira, c'est l'eau qui a quitté son lit, mais dans d'autres provinces, c'est pratiquement dans les mêmes contextes, ce sont des constructions anarchiques accordées par l'État lui-même, comme je pense, on dirait l'État sacrifie lui-même ses... sa population. Alors, pour les prédécesseurs sont intervenus et ils ont beaucoup commenté. Je suis dans la même logique. Les travaux d'habitat, les travaux d'urbanisme ne fait pas du tout ce qu'il fallait le faire, ce qu'il fallait plutôt faire. Alors, à mon sens, l'État, s'il est attentif et si, comme l'avait souligné, comme vous m'avez rappelé, si les députés étaient intervenus et que cela est arrivé, maintenant il faut prendre des dispositions, prendre des précautions. Ne pas accorder des terrains vaille que vaille, permettez le mot. Alors, ne pas accorder des terrains vaille que vaille. s'assurer, se rendre compte que réellement, là où la population habite, il n'y aurait pas de... Nous avons beaucoup d'experts dans ce pays. Comment voulez-vous, M. Pirot, que quelqu'un aille accorder un terrain d'habitat à côté d'une rivière, sans s'imaginer qu'un jour, la rivière peut quitter l'eau, peut quitter son lit, et puis se déborder dans la population. C'est à ce moment-ci que l'État peut construire ses propres maisons, que la population peut commencer à louer pour éviter ce genre de choses. Au lieu de perdre des vies humaines, la vie humaine, M. Pirot, elle est sacrée. La maison, elle peut s'écrouler un jour, on peut la reconstruire. Mais tous ceux-là qui ont perdu la vie, qui va les ressusciter? Peut-être nous allons pas nous dire, attendons la résurrection de Jésus, et ils seront restés avec Jésus. Mais pas aujourd'hui, pas demain. Et le choc qui est dans le cœur de ceux qui ont perdu les leurs, on ne peut pas en mesurer la profondeur. Donc l'État peut commencer dès lors, pendant que nous sommes en train de parler, pour dire alors prochainement, ou bien ce qui est arrivé, on peut dire alors, vous quittez cette part. Construisons, l'État construit des maisons ailleurs pour habiter, loger les gens. Et puis les gens vont louer pour éviter ce genre de choses. Voilà, peut-être, on ne peut pas dire assez, mais nous interpellons l'État qu'il puisse prendre son travail à main. Ce n'est pas, ça date d'il y a longtemps, mais nous pouvons quand même rectifier les tirs à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que les choses vont se suivre.
Merci. Merci beaucoup, Jonas. Vous l'avez dit. On revient encore à cette question de l'urbanisation et l'aménagement du territoire. Et pour vous, il y a une alternative. C'est que l'État peut initier des quartiers urbanisés qu'il faut mettre à la disposition de la population. Ils peuvent acheter à crédit. On a vu, hein, du temps même de la colonisation, il y a eu des gens qui ont pu avoir des maisons avec ce qu'on appelait les fonds d'avance. C'était possible. Il y a eu ONEL, l'Office national des logements, qui avait la charge de construire des maisons, de les mettre à crédit à la disposition de la population. Aujourd'hui, on a vu, hein, le programme des logements sociaux, si ça marche, on estime que ce sont des solutions que l'État peut mettre à la disposition de la population pour protéger la population contre les constructions anarchiques. C'est-à-dire que l'État peut initier cela à un coût abordable, hein, et permettre à la population d'être logée sans recourir à des constructions anarchiques et surtout à des terrains qui sont propices à des catastrophes naturelles. Merci beaucoup, Jonas. On reste à Kananga. Arsène Mumba, merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pirot. Bonjour, les auditeurs de la grande chaîne.
On vous écoute.
À partir de Kananga, nous saluons cette thématique du jour. Et en même temps, je me rappelle hier, entre mes collègues analystes politiques, on était en train aussi de le parler, Boniface Mopo était avec moi, on était en train de parler pour le problème de catastrophe naturelle. Il est vraiment impossible de le prévenir, puisque quand ça arrive, ça signale pas. Même si on peut équiper les services météorologiques, comme les autres le disent, mais l'État reste toujours l'acteur majeur. Là-dessus, vous comprendrez que il y a eu des lois qui sont votées dans la République démocratique du Congo. Il y a aussi des constitutions qui en disent long. La propriété foncière est le domaine privé de l'État. Donc toute la charge revient toujours à l'État. Dans le sens que tout ce qui peut se passer, voyez-vous, monsieur Pirot, tout ce qui peut se passer sans l'aval de l'État, l'État peut forcer. Il y a deux mesures de gravité qui doivent être infligées à tout quiconque qui peut aller à l'encontre de la volonté de l'État. Tout ce qui se passe actuellement à l'est du pays, l'erreur revient à l'État. Et aussi une chose, les services de l'urbanisme et les services aussi de l'habitat ne font pas tellement leur rôle. Même ici à Kananga, nous avons déploré, il y a hier que nous étions en prospection, nous avons trouvé des gens qui ont construit dans le ravin, M. Pirot. Mais s'il y aura une forte pluie qui peut s'abattre, qui va perdre? Et pourquoi l'État jusqu'à maintenant, au niveau de Bakatu, je ne sais pas, il y a d'ailleurs un ravin qui a déjà coupé l'avenue Makar en deux, mais il y a des gens qui habitent dans ce ravin-là, ils sont et même ont construit des maisons là-bas. Voyez-vous, ça c'est en quelque sorte la responsabilité de l'État, c'est une faiblesse. À cela, nous demandons à l'État, c'est une mission et scientifique, et il y a des propositions, nous demandons à l'État de jouer pleinement son rôle. Le rôle d'un parent qui ne veut pas voir ses parents souffrir, ses enfants souffrir. Le rôle d'un parent qui prévient, au lieu de commencer à pleurer, mais il prévient un danger qui vient devant. Et de deux, nous souhaitons qu'il y ait une structure plutôt, qui doit accompagner l'État s'il y a des catastrophes qui surgissent. Et cette structure-là répond directement aux besoins de la population.
Mmh. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Vous l'avez dit, il faut éviter que l'État, parce qu'il y a un compagnon qui disait tout à l'heure, l'État ne doit pas attendre pour réagir, il doit agir en amont, il doit prévenir, il doit avoir des actions en amont pour éviter toujours de subir. Et là, vous avez donné ces exemples de ces érosions qui menacent la ville de Kananga et des gens qui ont construit dedans. Tout revient d'abord à l'État. C'est à l'État de pouvoir agir pour protéger sa population. Merci beaucoup, Arsène. Chadrec, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kabylie.
On vous écoute, Chadrec.
Oui, Monsieur Perrault, je compatis ensemble avec le peuple d'Ouvira. À mon humble avis, j'estime que comme mes prédécesseurs l'ont soulevé, je remarque qu'il y a un peu une lâcheté au niveau des autorités. Pourquoi? Parce que les services d'urbanisme et d'habitat, c'est les services à titre délivré, qui est habilité délivré de attestation et l'autorisation de bâtir. Alors, j'estime que l'État, cette manque d'impuissance là, voilà, c'est que ça nous dote un peu de conséquences fâcheuses. Moi, je voulais interpeller aux autorités congolaises en général à l'ère du la sacralité de la vie humaine doit nous dire au moins quelque chose. Nous devons en fait procéder aux sanctions aux autorités, surtout qui lâchent, parce que ces constructions là, les lits, on sait très bien que les lits de rivières ainsi de suite de bordent, mais c'est aux autorités de prendre des mesures de distanciation, parce que le peuple, bien que le peuple ouvrir, c'est un peuple pêcheur, mais néanmoins les autorités doivent s'impliquer, parce que ça ne fait que se répéter. C'est la vie de nos Congolais, nos compatriotes, parce que le perdre chaque jour, ça fait un peu du mal. Or, que c'est une obligation de l'État congolais de prendre en charge, en fait, de protéger la vie des individus et de le protéger. Alors, pour le cas d'Ouvira, moi, j'estime que, comme ils sont dans des écoles et ainsi de suite, les autorités doivent peut-être aménager de places, des sites, en fait, d'aller loger nos frères. Ainsi, en fait, mettre, ériger soit un système, soit mettre un mécanisme sur place, pouvant surveiller à ce que ces catastrophes-là, cette calamité-là, ne puisse plus encore nous parvenir. Voilà un peu ma manière de voir les choses, Monsieur Perrault.
Merci beaucoup. La responsabilité de l'État dans la protection civile, la responsabilité de l'État dans l'octroi des documents, des permis de construction. Mais il reste à savoir, là, toutes ces maisons qui sont construites à travers le pays, si même leurs propriétaires vont solliciter auprès du ministère de l'Urbanisme et Habitat le permis de construction, est-ce qu'il y en a? Et quand bien même, des fois, on a vu, ça a été dit même dans les différentes de nos émissions, où les gens ont les permis de construction, l'autorisation de bâtir, alors même que les inspecteurs ne sont jamais passés. C'est comme on disait tout à l'heure sur la page Facebook, que les services techniques sont réduits tout simplement à la vente, si on peut utiliser les termes, de documents. On perçoit l'argent, mais le reste du travail n'est pas fait. Mais si on peut interpeller les uns et les autres, qu'on arrive vraiment à que chacun prenne sa responsabilité, je crois bien qu'on peut arriver à faire face à ce genre de choses et surtout éviter que les gens, parce que notre ami Arsène disait tout à l'heure, les catastrophes, il y aura toujours des pluies, il y aura les vents, tout ça va exister. Mais c'est plutôt les précautions qu'il faut prendre en amont au cas où ça arrive. Comment est-ce que les gens peuvent être protégés? Oui, si vous avez construit à côté d'une rivière, attention, parce qu'en cas de catastrophe, vous risquez d'être englouti et submergé. C'est autant de réflexions. Il a dit bien que c'est une matière scientifique, technique, qu'il faut mettre en exergue, en amont. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Chadrec. Albert, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi. C'est Albert Cotolo depuis la ville de Bandaka.
On vous écoute, oui, Albert.
Merci, monsieur le journaliste. Juste, je voulais parler comme un informataliste parce que je suis l'informataliste de la formation à l'université de Mbandaka. Bien que je parle de l'école, on m'a enseigné des différentes notions environnementales. Mais en ce qui concerne les catastrophes, vraiment, c'est un phénomène, d'abord, c'est naturel. Et quand on parle de l'inondation, je dois dire à tous les auditeurs de la radio Capi que les inondations, c'est un problème mondial. C'est parce que la catastrophe naturelle, c'est phénomène naturel, c'est la mauvaise occupation du sol. C'est-à-dire, si vous occupez un endroit qui est totalement inondé, communément que nous appelons bidonville, automatiquement vous êtes à côté des eaux et à tout moment, même au bord de la rivière, vous aurez toujours des problèmes. Et de deux, à ce qui concerne l'inondation, je dirais aux auditeurs que la troisième guerre mondiale, ça serait l'eau. Ça, c'est la guerre que nous entendons, nous, États, les environnementalistes. Mais le grand problème est que l'État congolais va associer les environnementalistes de la formation. Parce que nous avions des cours comme l'évaluation d'impact environnemental. C'est-à-dire, nous, les environnementalistes, nous prévenons ce qui va nous arriver aux jours à venir. Est-ce que la façon dont nous allons construire, qu'est-ce qui va entraîner des impacts environnementaux, sociaux, économiques et tout comme ça. C'est-à-dire, la charge là revient à l'État et l'État doit mettre l'homme à la place qu'il faut. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut le prendre seulement comme ça qui vient travailler dans les services de l'aménagement du territoire, dans les services d'urbanisme, dans tous les services là, seulement comme ça, d'emblée comme ça, parce que je suis l'enfant d'un député national ou d'un député provincial et tout comme ça là. Vraiment, nous avons un grand problème. Mais nous, étant environnementalistes, la catastrophe est un défi environnemental à relever. C'est-à-dire, nous sommes obligés de chercher de tous les moyens pour éviter quelles que soient les érosions. Nous avons les mécanismes pour freiner les érosions. Nous avons aussi les mécanismes pour lutter contre aussi les inondations parce que nous avons les indices, nous avons les symboles, nous avons les signes qui montrent que non. Voilà, cette fois-ci, il y aura une grande inondation. Voilà, cette fois-ci, il y aura tel et tel. Parce que nous sommes les environnementalistes. Parce que nous avons un adage environnemental qui nous dit que la qualité de la vie d'une personne dépend de la qualité de l'environnement qui l'entoure. C'est-à-dire, si l'environnement est mauvais, l'homme aura toujours des difficultés. Et sur ce, je demanderai au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre l'homme à la place qu'il faut. Et de deux, et à faire, toute la population congolaise doit sachez que ce que nous entendons, nous étant les environnementalistes, la troisième guerre mondiale serait lourde. C'est le moment de nous prévenir. Donc, comment nous allons nous prévenir? À limiter la pollution par exemple, atmosphérique ou la pollution de l'air. Parce qu'avec les industries, avec toutes les machines qui fonctionnent au monde, ça dégage les fumées. Les fumées, là, montent au niveau de l'atmosphère. Ça détruit l'atmosphère. Et après, nous aurons toujours des conséquences. Il y aura des grandes pluies.
Et c'est important, Albert. C'est important, Albert. Vous l'avez dit. Il faut que cette question soit abordée sur le plan environnemental. Mais est-ce que ça soit l'aménagement du territoire, l'urbanisation, est-ce que les environnementalistes sont-ils associés aujourd'hui dans leur réflexion, parce qu'il y a cette question où on peut venir, on a des indicateurs pour savoir qu'on peut avoir une pluviométrie très abondante cette fois-ci. C'est pourquoi c'est important. Mais vous l'avez dit, c'est d'abord la question de la mauvaise occupation du sol qui provoque tout ça. Mais en définitive, il faut associer leurs environnementalistes dans tous les travaux qui doivent être faits, que ce soit dans le projet de l'aménagement du territoire ou bien dans l'élaboration du plan national d'urbanisation, comme ça a été souhaité par l'ensemble des compatriotes qu'ils sont et se sont exprimés dans cette émission. Nous vous disons merci parce que vous avez été nombreux à commenter les sujets. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs parce que la question, elle est très très importante. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Tati Mapoukou. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux débats dans Parole aux auditeurs. Merci, au revoir.